énormément de mal à se représenter la diversité du fonctionnement des langues. Quand on est plurilingue, non. Mais quand on est monolingue, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toutes les langues présentent un certain nombre de caractères communs qu'on appelle les universaux. Donc, dans toutes les langues, il y a par exemple des éléments qui permettent de désigner le locuteur, l'interlocuteur, le monde de référence. Il y a toujours des éléments. En français, ça va être le système des pronoms. Il y a toujours, dans toutes les langues, des moyens de distinguer l'assertion, l'interrogation et l'ordre. Dans toutes les langues, c'est toujours possible. Il y a dans toutes les langues l'universal de la négation. Donc c'est la façon de marquer la négation, elle existe dans toutes les langues, mais on verra qu'elle ne s'exprime pas de la même façon. Et dans toutes les langues, il y a toujours aussi la possibilité de modaliser son propos. Donc la modalisation, c'est ce qui vous permet de dire qu'un énoncé, enfin de présenter un énoncé comme nécessaire, possible ou vrai. D'accord ? Vous modalisez demain j'irai peut-être à la piscine, demain je vais à la piscine, c'est de la modalisation. D'accord ? Ces points communs, hein, ces universaux du langage, ils s'expriment différemment en termes de moyens linguistiques dans les différentes langues. Alors, si on s'intéresse au fonctionnement, aux langues, on peut, à la typologie des langues, si on essaie de typologiser les langues, on peut faire des typologies différentes. On peut, par exemple, faire des typologies phonologiques. Quelles sont les langues dans lesquelles il y a beaucoup de consonnes, beaucoup de voyelles, des fricatives, des occlusives, etc. On reviendra dessus tout à l'heure. Vous pouvez également faire une typologie syntaxique. Donc on a vu par exemple que la langue fictive sur laquelle vous avez travaillé, la structure syntaxique, c'était sujet, objet, verbe. D'accord ? Et en français, on est plutôt sur une phrase canonique simple, sujet, verbe, objet. Donc on peut travailler, on peut faire ce genre de typologie, mais on peut, et c'est celle par laquelle on va commencer, on peut travailler, on peut organiser les langues en fonction de leur typologie morphologique. D'accord ? Donc en gros, la forme des mots. Donc si je m'intéresse à la forme des mots, j'obtiens trois types de langues. Alors là, ce sont des cases. Mais les langues, une langue peut être un petit peu de ceci, un petit peu de cela et un petit peu autrement. D'accord ? C'est rarement pur. Mais pour les besoins du propos, on sépare les choses. Donc, premier type de langue, si on s'intéresse à la morphologie, ce sont les langues flexionnelles. Vous connaissez très bien les langues flexionnelles puisque vous parlez français. Le français est une langue éminemment flexionnelle. Dans les langues flexionnelles, les mots changent de forme en fonction des relations grammaticales qu'ils entretiennent avec les autres mots de la phrase. Si je dis en français « nous chantons », je suis obligée de modifier le verbe chanter. D'accord ? Alors, vous avez vu tout à l'heure, dans la langue fictive, je ne changeais pas la forme du mot, du verbe. Si par contre, je mets le verbe chanter en rapport grammatical avec un autre pronom, vous, je vais être obligée de bouger, de faire bouger la forme du mot, et je vais obtenir vous chanter, mais je pourrais obtenir vous chanterez, vous avez chanté, vous chantiez, etc. D'accord ? Donc, dans une langue flexionnelle, on a un radical et des désinences. Parfois, la flexion fait complètement disparaître le radical. Et ça, quand on n'est pas francophone, c'est très perturbant parce que si je demande à un enfant, à un élève, un apprenant, peu importe que ce soit un enfant, un adulte ou un adolescent, quel est le verbe qui est caché derrière « va », ben, il faut que je le sache, quoi, je ne peux pas le deviner. Parce que ça n'a plus rien à voir avec le radical. Deuxième type de langue, les langues agglutinantes. Alors, dans les langues agglutinantes, on n'a pas un radical et des désinences, on a un radical et des postpositions. Dans les langues agglutinantes, on a une agglutination à partir d'un radical, donc une agglutination de suffixes dans un ordre précis. Je vous prends l'exemple du turc. Alors, le turc, vous allez voir que vos élèves turcophones sont loin d'avoir appris à réfléchir en turc comme on réfléchit en français. Ce qui peut expliquer que pour certains, l'appropriation du français prenne plus de temps que pour des locuteurs qui parlent une langue proche du français, comme l'italien, l'espagnol, le portugais ou le roumain. Alors, je prends ce petit morceau en turc. Almamalizinizm. Ceci n'est pas un mot. Ceci n'est pas une phrase. Ceci n'est pas non plus une proposition. Ça signifie « vous ne devez pas prendre ». Ce n'est pas un mot. C'est un seul morceau, d'accord, mais qui n'a pas, ce concept-là n'a pas de, n'existe pas en français, donc on ne peut pas le qualifier avec nos mots de tous les jours. Alors, comment ça fonctionne? Je prends le radical, puisque c'est une agglutination à partir d'un radical, le radical du verbe « alma » qui signifie « prendre ». En turc, tous les verbes finissent par « mak » ou « mek » à l'infinitif. Ensuite, je place le suffixe du négatif, puis le suffixe de la nécessité, puis le suffixe de la deuxième personne du pluriel. Si je veux dire en turc « je ne dois pas prendre », eh bien, je vais changer le suffixe de personne et je vais mettre « oum » à la place, puisque « oum » est le suffixe de la première personne du singulier. Mais je ne change rien d'autre. D'accord ?« Almamalium ». Donc, il y a bien une façon de marquer le temps, de marquer la personne, mais qui ne s'exprime pas du tout comme en français. Donc, un locuteur turcophone va avoir énormément de mal à s'approprier la conjugaison en français. Puisqu'à chaque fois que je change de temps, de personne, eh bien j'ai une flexion, la plupart du temps, une flexion verbale qui change. Pas toujours le cas, hein, mais en tous les cas, c'est souvent le cas. Là, jamais. Si je veux dire « vous devez prendre », qu'est-ce que je vais faire? On enlève le « ma » et ça y est, on est sorti d'affaire. D'accord? Comme vous le voyez, la particule négative n'est composée, enfin, est simple, elle n'est pas double comme en français. D'accord ?
Oui, c'est pour ça qu'ils oublient souvent. Alors,
c'est souvent pour ça, effectivement, absolument, il y a deux raisons. C'est que la première, elle vient d'une interférence entre la langue première et le français, c'est-à-dire que comme dans la langue première, il n'y a qu'un seul élément négatif, eh bien, les locuteurs turcophones, mais il n'y a pas que, hein, vous allez voir, ont tendance à ne mettre qu'un seul élément négatif en français. Et en plus, en français, il y a une différence entre les pratiques orales et les exigences de l'écrit. La norme de l'écrit nous indique qu'il faut deux éléments négatifs, quelle que soit la situation. Quoique, vous pourrez dire... parfois, on n'utilise que le ne, qui n'a même... Enfin, bon, bref, peu importe, on va rester là. C'est trop... Après, on rentre vraiment trop dans les détails. Mais en tous les cas, à l'oral, on supporte complètement l'oral, supporte complètement l'absence du premier élément négatif. Donc, n'ayant pas l'habitude de l'entendre en français, n'ayant pas l'habitude de voir deux éléments négatifs dans la première langue, la plupart du temps, ils n'en mettent qu'un seul en français. D'accord. Alors, en turc, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas... On parlait des jeux des langues dans lesquelles il n'y a pas de genre. Ben, en turc, il n'y a pas de genre. Donc, il n'y a pas d'article. Petite chose aussi, c'est encore un peu exotique pour nous, exotique maintenant, merci pour nous, c'est qu'en turc, on ne marque le pluriel que si il n'est pas évident dans le contexte. Par exemple, en français, vous allez dire le fleuriste vend des fleurs. Vous ne pouvez pas dire le fleuriste vend une fleur. Eh bien, en turc, on se doute bien que le fleuriste ne vend pas qu'une seule fleur. Donc, on ne va pas marquer le pluriel parce qu'il c'est évident que le fleuriste ne vend pas une seule fleur. Sinon, ça n'a ni queue ni tête, d'accord? Donc, puisque c'est évident, ben, on n'est pas obligé de le marquer. Alors qu'en français, même s'il est évident que le fleuriste ne vend pas une seule fleur, on est obligé de marquer le pluriel. On est une langue extrêmement... Enfin, le français est une langue extrêmement redondante. Hein, vous dites... La petite fille joue avec sa corde à sauter dans la cour. Les, ça change. Petite, ça change. Fille, ça change. Joue, ça change. Avec, ça va. leur corde à sauter, ça change, corde, ça change. Vous voyez, on est extrêmement redondant. Dans plein de langues, c'est beaucoup plus économique. Une fois qu'on a compris que c'était au pluriel, une fois, bon, bah, le reste, ça